très heureuse de retrouver Roxane de la Sablonnière, professeure titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal, directrice du laboratoire sur les changements sociaux, l'adaptation et le bien-être. Bonjour Roxane.
Bonjour Hélène.
Roxane, c'est votre 30e chronique à notre micro, oui. À ce micro.
Oui, je suis pas mal contente.
Félicitations.
Merci.
On est heureux de vous avoir avec nous. Et aujourd'hui, la question en fait de la chronique, ça a été inspiré d'un article que vous avez lu dans la presse. Est-ce vrai que les jeunes ne veulent plus travailler?
Oui, c'est ça.
Parce que l'article s'intitulait « Les jeunes ne veulent plus travailler ». Là, c'est encore plus drastique.
Oui, c'est assez drastique, puis c'est très accrocheur aussi, surtout que je travaille avec les jeunes dans mon quotidien, avec mes étudiants aussi. On a des ateliers pour les jeunes. J'ai des enfants, des adolescents aussi, puis des jeunes adultes. Donc, cet article écrit par Judith Lachapelle, cité entre autres un dirigeant d'entreprise qui s'appelle Réal Lafrenière, qui disait que les jeunes ne veulent plus travailler. Ils vont travailler une semaine et ils s'en vont. Les autres restent 3 mois, juste le temps d'avoir droit à l'assurance chômage. Dans l'industrie, c'est partout pareil.
Ouais.
Qu'est-ce que vous en pensez, Hélène?
Oh, vous me mettez pas mal à l'aise, là, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup ça. On entend souvent parler, depuis la pandémie, de la pénurie de main-d'œuvre, du manque de personnel dans les entreprises, des difficultés à recruter. Mais d'un autre côté, on entend aussi parler des jeunes, même de très jeunes adolescents de 14 ans qui travaillent plusieurs heures par semaine. Mais on en entend de toutes les sortes, là, des jeunes qui veulent vraiment avoir un horaire qui leur convient. Moi, je ne veux pas travailler le samedi, je ne veux pas travailler les soirs, je veux travailler 5 heures par semaine, pas 5 heures par semaine, mais peut-être 3 heures par semaine, ça dépend, parce qu'ils ont aussi d'autres emplois du temps, d'autres choses à faire. Mais Roxane, tout ça pour vous demander comment la psychologie sociale, c'est votre spécialité, pourrait nous éclairer là-dessus.
Merci Hélène. Oui, en effet, c'est vrai qu'on a souvent l'impression que les jeunes travaillent moins que nous, les plus vieux. Mais on se rappelle aussi que depuis le 1er septembre 2023, les jeunes doivent limiter leurs heures de travail s'ils fréquentent l'école.
C'est vrai.
Il y a eu une loi à cet effet. C'est pas arrivé par hasard. C'est parce qu'un nombre important de jeunes travaille beaucoup d'heures par semaine. Puis de mon côté, j'observe aussi que les étudiants universitaires passent beaucoup de temps à travailler pendant leurs études, en plus de toutes les heures consacrées à leurs études et au bénévolat. Mais par contre, il m'arrive souvent de penser que quand je dirige des étudiants en recherche ou quand je donne mes cours, ben, que les jeunes d'aujourd'hui sont différents de ceux de ma génération. Même d'avoir la pensée qu'ils travaillent peut-être un peu moins bien ou moins efficacement, etc. Mais est-ce que c'est seulement une impression ou bien est-ce que ça reflète vraiment la réalité? Donc, c'est la question qu'on se pose. En fait, dans l'article de la presse, les propos de Réal Lafrenière, disant que les jeunes ne veulent plus travailler, ne date pas d'aujourd'hui, mais de 1975. Donc, les
ça
jeunes...
Ça fait presque 50 ans.
Exactement. Donc, les jeunes dont il fait mention seraient donc nés autour des années 1955 et seraient aujourd'hui ceux qui pourraient être d'avis que les jeunes ne veulent plus travailler.
Ouais.
Donc, cette journaliste recense plusieurs articles de ce genre, dont l'un remonte à 1894. Ça aurait même inspiré les travaux de plusieurs chercheurs, dont un à l'Université de Calgary, qui a consacré une partie de sa recherche à cette impression que nous avons que plus personne ne veut travailler de nos jours.
Alors, comment expliquer cette impression?
Bien, il y a un pan de la recherche important en psychologie sociale, on en a déjà parlé un petit peu, sur les biais. Donc, un rappel, les biais, ce sont des raccourcis cognitifs qu'on a tous et toutes. Ces biais nous aident à naviguer dans la vie de tous les jours, puis ils nous permettent de prendre des décisions rapides. Donc, c'est un raccourci mental que notre cerveau prend sans qu'on s'en rende trop compte. Ça nous aide à prendre des décisions rapidement, à nous adapter plus facilement aussi à des nouvelles situations. Mais...
Parce qu'il y a un mais.
Oui, il y a un mais, il y a toujours un mais. Mais ces jugements automatiques et rapides manquent souvent d'objectivité et ils sont aussi très souvent fautifs, donc erronés. Plusieurs chercheurs mettent de l'avant la fonction adaptatrice des biais qui nous a permis de détecter des menaces et de ce fait de survivre à travers le temps et les époques. Donc, lors de dangers, on doit prendre évidemment des décisions rapides. Et lorsqu'on entend parler de biais, spontanément, si je vous dis biais, vous allez penser au biais qu'on a quand il y a des personnes qui sont différentes de nous, qui appartiennent par exemple à la diversité de genre ou la diversité culturelle. Mais il existe toutes sortes de biais autres que ces biais associés à la diversité. Donc, il y en aurait deux qui pourraient nous éclairer sur notre question initiale. Donc, le biais de négativité et le biais de positivité.
Ah, je connais le fait qu'on peut avoir des biais en lien avec notre jugement quand on est en contact avec des personnes différentes de nous, mais je ne connaissais pas, Roxane, ces deux types de biais de négativité et de positivité. Alors, dites-en-nous plus.
Oui, le biais de négativité, c'est lié à notre situation présente, donc comparé à notre passé. La personne a une tendance à retenir ce qui est négatif dans le moment présent. Donc, notre cerveau serait en effet plus réceptif à la négativité. Les chercheurs dans ce domaine stipulent que c'est évolutif et adaptatif, car nous devons détecter le négatif pour échapper au danger et réagir rapidement. Donc, d'une certaine façon, nous évaluons le présent par rapport au passé. C'est pourquoi ce dirigeant d'entreprise pourrait se dire que les jeunes d'aujourd'hui travaillent moins que les jeunes d'autrefois dont il faisait partie. Donc, il va observer dans son entourage, « Ah, les jeunes ils travaillent moins bien, ils font moins bien les choses. » Donc, on remarque ce qui est négatif.
Oui, ouais. Saute aux conclusions aussi très rapidement.
Et on saute parce que c'est un biais, justement, on se fait un raccourci mental. « Ah, ils travaillent pas bien aujourd'hui, on remarque ça. » Mais on remarque peut-être pas le reste des heures où il aura bien travaillé ou le reste de la semaine. On va juste voir ce qui est négatif au moment même où ça se produit.
Et le biais de positivité. C'est l'inverse, on voit ce qui est bien, ce qui est positif.
Oui, mais par rapport au passé. Donc,
c'était meilleur dans le temps, dans mon temps.
Exactement, donc c'est associé au passé et à la notion que c'était mieux avant. C'est une sorte de nostalgie. Ça fait en sorte qu'on embellit notre situation passée. Donc,
on l'idéalise.
Oui, on idéalise, puis on se fait aussi une image améliorée de nous-mêmes, puis du monde qui nous entourait à cette époque-là. Donc, ce biais est souvent présent chez les personnes âgées qui se remémorent leurs souvenirs. Puis selon la recherche, ça rendrait l'approche de la mort plus facile à accepter.
Ah oui?
Oui, on se rappelle de nos souvenirs, puis c'est comme plus doux, plus facile. Puis chez les jeunes, bien, ce biais serait expliqué par la crainte du futur, puis de l'inconnu. Donc, le dirigeant d'entreprise aurait une image beaucoup plus positive de lui-même au passé et des gens de sa génération. Oui.
Est-ce que vous avez un autre exemple où ces deux biais, donc le biais de négativité et le biais de positivité, pourraient être présents?
Oui, bien, il y a plein d'exemples, puis on peut en prendre un plus récent. Justement, à l'émission de Radio-Canada, Maxime Coutier, qui remplaçait là, Patrick Masbourin à tout un matin, je crois que c'est la semaine dernière ou l'autre d'avant, rapportait le fait que certains adolescents ou les plus jeunes se sentaient nostalgiques de la période du confinement. Lors de la pandémie. Donc, c'est évident que pour certains enfants ou adolescents, cette période, elle a peut-être été plus douce, plus facile, mais c'est aussi possible que les biais de négativité et de positivité soient entrés en jeu. Parce qu'on se rappelle, la recherche nous a montré clairement que les jeunes ont beaucoup souffert pendant la pandémie, puis il y a encore des conséquences aujourd'hui de ça.
La recherche et les médias, on entendait beaucoup de reportages où on nous montrait la détresse ou la peine. Il y a beaucoup d'enfants qui se sentaient isolés, qui étaient mal à la maison, mais par contre, il y en avait qui étaient bien chez eux.
Oui, puis c'est sûr qu'on peut se dire, oui, mais certains, dans des situations plus privilégiées ou les familles qui les entouraient, donc peuvent sentir ce sentiment que c'était mieux avant. Mm-hmm. Mais les biais dont je vous parle pourraient aussi expliquer ce sentiment. Parce que...
Tout ça est de la faute des biais.
Peut-être pas tout, hein? C'est une explication, il faut faire attention. Parce que, par exemple, l'adolescent qui vivrait un conflit aujourd'hui avec ses amis, par exemple, pourrait se dire, ben, c'était plus facile pendant le confinement.
Ben oui, je ne le rencontrais pas.
J'avais pas de conflit avec mes amis. Mais elle oublierait peut-être que... Elle a peut-être oublié qu'elle avait des conflits avec ses frères et sœurs, qu'elle était peut-être tannée d'être avec ses parents tout le temps, de les avoir sur son dos, etc. Donc, elle aurait oublié ces éléments pour seulement se concentrer sur l'élément de conflit en ce moment présent qu'elle pourra avoir avec ses amis et donc penser que c'était plus facile, donc avoir un état de nostalgie en lien avec son passé, finalement.
Mais une fois qu'on est conscient de ces biais-là, j'imagine que ça aide à prendre du recul, puis à réfléchir, puis à changer notre façon de voir les choses.
Oui, je pense que comme ils sont automatiques, c'est facile d'entrer là-dedans puis de penser que c'est ça la bonne façon de penser. Mais c'est vraiment... C'est vraiment un exercice qu'il faut faire dans la vie de tous les jours. Donc, si je vois une jeune personne, puis je dis « Ah, elle est paresseuse dans ma tête, là, je ne vais pas nécessairement lui dire », bien, toujours de me dire « OK, est-ce que c'est un biais? Est-ce que c'est vrai? Objectivement, Quelle est la réalité? Puis pour vraiment savoir si les jeunes d'aujourd'hui travaillent moins que les jeunes d'avant, bien, il faudrait faire une étude scientifique, d'avoir des statistiques objectives pour vraiment refléter la situation. Mais de prendre conscience de ces biais nous aide vraiment à avoir une plus grande ouverture à l'égard de la vie et des autres, puis ça fait en sorte qu'il y a moins de conflits peut-être aussi avec les gens qui nous entourent.
Est-ce qu'un biais peut être aussi nommé un préjugé?
Oui, ça peut être un préjugé, une certaine attitude.
Une idée préconçue.
Oui, une idée préconçue, puis c'est pas nécessairement négatif quand on en prend conscience puis quand on agit sur nos biais.
Très intéressant. Ouais. Est-ce vrai que les jeunes ne veulent plus travailler?
On le sait pas.
Oui, puis non. Roxane de la Sablonnière, merci beaucoup. On se retrouve le mois prochain.
Merci, au revoir.